Bonjour, comme un bruit qui court, c'est le magazine de reportage de France Inter qui vous emmène hors des clous.
Cette semaine, utopie concrète au programme. Du luxe des rives du lac Léman à la boue du bocage breton. Gagne ou solidarité, prenez vos résolutions pour la nouvelle année.
Comme un bruit qui court, une émission réalisée par Jérôme Chélius, assistée de Jonathan Duong. À la technique aujourd'hui, Julien Dumont et Fabrice Desmaz.
Faire avoir des voisins avec des gros engins, on dit ça tout le temps.
Soyons tous les 1%, non seulement c'est possible, mais en plus c'est à la portée de tous.
Les gens souvent disent oui mais il faut aider les pauvres. Ouais, bah justement, si tu veux aider les pauvres, tu dois être certain de ne pas en devenir. Hein. Non, on est bien là, hein. On est très bien.
Dites-moi monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court que cette nouvelle année sera mouvementée. Alors toute l'équipe de l'émission s'est creusé les méninges pour vous proposer quelques chemins de traverse pour démarrer 2015 sur les chapeaux de roue. Et si vous changiez radicalement votre manière de voir les choses et si vous pouviez faire de votre vie un véritable chef-d'œuvre, Gaylord est allé auprès d'un catalyseur de réussite pour apprendre à devenir lui aussi un leader. Parce qu'on ne naît pas leader chez un auditeur, on le devient. Antoine, lui, nous emmène rencontrer de vrais entrepreneurs, mais des entrepreneurs d'utopie. À Trémargat, dans le Crèze-Brèze des Côtes d'Armor, les habitants de ce village travaillent et font vivre leur pays à leur manière. Là où le coach parlait de winner et de gagne, ici on déploie la même énergie au nom de la solidarité, l'entraide et de l'écologie. Mais France Inter étant une radio généraliste, nous avons souhaité nous adresser à toutes les sensibilités. Alors si vous ne souhaitez pas vous encombrer de morale ou de bons sentiments dans les affaires, si vous pensez être de ceux qui savent prendre des risques, à vous de passer de la théorie à la pratique avec notre nouveau rendez-vous « Combien ça gagne ?» Comme un bruit qui court, qui grince et fait des étincelles, l'émission du son dans tous les sens.
Antoine Chao. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Ah, enchanté.
Bonjour.
Ça va bien ?
Alors, ça va et vous ?
Super, impeccable. Bon.
Chers auditeurs et auditrices, toute l'équipe de Comme un bruit qui court vous souhaite bien évidemment une très bonne année 2015. Pourtant, si l'on en croit les études d'opinion, ces fameux sondages, vous savez, vous êtes encore beaucoup trop pessimiste pour cette nouvelle année. Et oui, 60% des Français pensent que 2015 sera pire que 2014. Alors pour vous aider à amorcer la nouvelle année avec le peps, la niaque et bien sûr l'argent, nous avons rencontré quelqu'un d'hyper positif. Un coach de vie, un life coach, rien de moins. Installé en Suisse, ce Français de 33 ans dispense ses conseils de réussite sur Internet et dans des conférences. Celui qui affirme être parti de rien est aujourd'hui successful et millionnaire. La crise, une opportunité à saisir. Le chômage, prenez-vous en main. Des difficultés financières, ne cédez pas à la morosité. Alors, pour entrer du bon pied dans la nouvelle année, prenez sur vous et apprenez à devenir riche.
J'ai l'intime conviction que tout le monde peut créer une vie exceptionnelle. Nous sommes nés pour vivre nos rêves et nous réaliser pleinement. Nous ne sommes pas destinés à vivre dans la médiocrité, la peur et le stress. Réussir, c'est vivre notre vie selon nos propres termes.
Nous voilà à Genève. Grand ciel bleu. Ouais. On se dirige vers où, là ?
Vers le lac. Là, on commence à rentrer dans le quartier des affaires, ouais. Et Genève, donc voilà, c'est dynamique, c'est plein de ressources, c'est business, c'est ouvert.
C'est business, vous dites.
C'est business, on peut parler d'argent, il n'y a pas ce tabou ridicule à mon sens de l'argent. Moi, je suis Max Piccinini. Attends, je vais refaire. Alors, je suis Max Piccinini, catalyseur de réussite.
Vous êtes coach, coach de vie, on dit life coach.
Life coach, c'est tout à fait ça, coach de vie, donc j'aide les gens vraiment à exploiter leur potentiel au maximum.
J'ai l'intime conviction que tout le monde peut créer une vie exceptionnelle.
Alors pourquoi la Suisse ?
Pourquoi la Suisse ? Pour plusieurs raisons. Numéro 1, je dirais pour la qualité de vie. Puis aussi parce que, je dirais, bah, sont en clair au niveau du business, au niveau des taxes, c'est beaucoup plus intéressant.
Fiscalement ?
Fiscalement, c'est très intéressant.
Donc vous faites partie des exilés fiscaux français en Suisse ?
On peut dire ça comme ça. Bon, j'étais en Italie avant, pendant une année et demie.
Mais oui, on peut dire ça, ouais, tout à fait. Plus je gagne d'argent, plus ça me motive aussi à pouvoir le redonner. Donc moi, ça me plaît, par exemple, pouvoir donner environ 25 000 euros annuels dans des associations à but non lucratif.
C'est ce que vous faites?
C'est ce que je fais. Les gens souvent disent, oui, mais il faut aider les pauvres. Ouais, ben justement, si tu veux aider les pauvres, tu dois être certain de ne pas en devenir. Pourtant, je viens d'une famille pauvre. Ça n'a pas été facile pour moi au départ. Quand on a la bonne attitude et on fait ce qu'il faut, tout le monde a la capacité de changer les choses. Et littéralement, en 5 ans, j'étais en top 1% des revenus francophones. Ouais.
Donc millionnaire?
Absolument.
Là, on arrive sur le lac.
C'est magnifique, ouais. Non, c'est vraiment exceptionnel, là.
Là, il y a les montagnes enneigées, au loin.
On va peut-être voir le Mont Blanc dans un instant, ouais.
On va se diriger vers les magasins.
Avec plaisir.
Alors ici, c'est Montre Prestige.
Tout à fait, ouais, là on a des magnifiques montres devant nous.
Donc là on a par exemple, c'est quoi? C'est des petits diamants certainement, ça, non? Peut-être pas des diamants.
Là il y a des diamants aussi, ouais, là on a des
ah,
diamants.
Vous pensez?
Absolument. Ah, je pense que ça vaut dans les... Allez, entre 7000 et 10 000 euros, je pense. Pour une montre comme ça avec les diamants.
Mm-hmm. Bon, celle-là, je vais pas pouvoir me l'acheter par contre. Hein, je...
Pas encore.
Pas encore.
Enfin, vous écouterez mes conseils peut-être.
Vous voulez être riche? Réussir, ça ne tient qu'à vous. Max Piccinini, catalyseur de réussite.
Le véritable challenge qu'on a en France et même partout dans le monde, c'est qu'on manque d'éducation financière. Les gens ont besoin de se rééduquer à gagner de l'argent. Il y a des principes qui existent, ça s'apprend, il y a des principes d'enrichissement.
Donc on va pouvoir dire aux auditeurs de France Inter, apprenez à devenir riche. Alors on y va.
C'est parti. Alors on va à l'hôtel Président Wilson, très sympa, vraiment très bel endroit. Ils ont une piscine intérieure, ils ont une magnifique vue sur le lac et puis vraiment un endroit parfaitement cosy pour notre interview. Cosy, voilà, c'est ça.
Bonjour.
Peut-être s'installer, je sais pas moi, par ici, voilà, par
là-bas.
Conseil numéro 1, croire en vous.
Quelles sont les résolutions pour que les Français réussissent enfin?
La première chose, c'est de prendre une véritable décision. Quand on parle de résolution, il faut savoir que 95% des résolutions n'aboutissent pas.
Ça, c'est une statistique.
Statistique. 95% des résolutions n'aboutissent pas.
C'est l'INSEE qui chiffre ça?
Je ne sais pas, c'est l'INSEE, mais ça a été une étude, c'est très, très simple à prendre. Vous prenez 1000 personnes, vous leur demandez le nombre de résolutions, vous les remesurez un an plus tard, 95% des résolutions n'ont jamais abouti. Et ce n'est pas une sorte de souhait dans la tête, ça se passe dans le cœur, dans les tripes.
Tout le monde peut réussir, donc?
Absolument tout le monde peut réussir.
Conseil numéro 2, profitez de la crise.
C'est arrêter de jouer ce qu'on appelle le jeu de la victime. Malheureusement, en France, je crois personnellement, peut-être que ça va être un peu choqué sur France Inter de dire ça, mais je pense qu'on a vraiment un système d'assisté. Et la beauté, en quelque sorte, c'est qu'avec la crise, on ne peut plus compter sur le gouvernement, on ne peut plus compter sur personne, à part soi-même. Donc, ce qui est génial, à mon sens, je trouve ça très positif, c'est que les gens doivent se prendre en main. Enfin! Et ce qui est génial, parce qu'en fait, le bonheur, je crois beaucoup que le bonheur est dans la croissance.
Tiens, votre thé vert est arrivé.
Mon petit thé vert, parfait. Non, on est bien là, hein. On est très bien.
Conseil numéro 3, prenez-vous en main.
Vous dites, il faut cesser d'être des victimes, c'est-à-dire qu'il faut être quoi, des leaders?
En quelque sorte, oui. En quelque sorte, être un leader, comprendre qu'on n'est pas né leader, qu'on le devient. Donc leader, ça veut dire qu'on prend sa vie en main avant tout. Tout vient d'avoir des buts et des rêves clairs.
Donc là, vous dites, vous conseillez à tout le monde, Max Piccinini, de devenir son propre leader.
Absolument, et d'ajouter de la valeur. D'acheter de la valeur, c'est la clé de l'enrichissement de base. Si vous valez plus, vous allez être payé plus. C'est aussi bête que ça.
Alors le succès, par exemple, en 2015, si je veux avoir du succès?
Faites des erreurs, lancez-vous. La plupart des gens, puisqu'ils ont peur de faire des erreurs, parce qu'ils ont peur du jugement. Si vous voulez vraiment réussir, il faut exterminer cette peur-là. Les gens qui réussissent ont toujours peur. La différence, c'est qu'ils passent quand même à l'action. Les auditeurs qui nous écoutent ont besoin de comprendre, de prendre une décision que 2015, c'est une année extraordinaire s'ils le décident. C'est ce niveau d'attitude qu'il faut développer, ce niveau de conviction. C'est de dire, je vais réussir quoi qu'il arrive et je ne vais pas accepter autre chose. C'est la niaque, c'est la décision. Ça, c'est ma des tripes. Je refuse de penser comme une victime. Maintenant, je suis un gagnant, je suis un leader, je vais le faire.
Être un winner.
Être un winner, on peut dire ça, oui, tout à fait. Un winner.
Chers auditeurs, soyez des winners pour 2015.
Voilà. On est créateur de sa vie, on est le chef-d'œuvre de sa vie. On veut surtout se sentir riche. Moi, j'aime dire que l'argent permet d'expérimenter la vie à son maximum.
Donc, devenir un aimant à argent, c'est avant tout changer son programme intérieur. C'est pour ça que les gens en général qui ont grandi dans une famille riche ont tendance à encore plus s'enrichir. Les gens qui ont grandi dans une famille sont malheureux, sont aussi malheureux. Ce qu'ils ont appris, ils ont hérité en quelque sorte d'un programme intérieur réglé sur la pauvreté et le malheur ou la richesse et le bonheur. C'est aussi bête que ça. La première chose pour s'enrichir, il faut commencer à se sentir riche. Tant qu'on ne se sent pas riche, on va avoir du mal à créer de la richesse.
Si vous êtes pauvre et malheureux, là si vous nous écoutez, essayez même une seconde de vous sentir riche.
Exactement ça. Et par exemple, un challenge peut vous donner à faire. Une fois par semaine, rentrer par exemple dans une boutique de luxe. Rentrer dans un bel hôtel, là comme nous sommes par exemple. L'idée de rentrer dans des endroits riches et commencer à se sentir riche. Prendre un café, ça coûtait un peu plus, ça a coûté 4-5 euros, 2 euros. Prendre un café dans un bel hôtel et faire ça régulièrement. Vous allez passer un meilleur moment, vous allez vous dire « Ah, mais il y a la musique, il y a un bon feu. » Vous allez commencer à apprécier. Le cerveau va commencer à enregistrer l'information de positivité. Et c'est le problème, c'est que tant que l'argent est lié à une émotion négative, on va le repousser. Au passage, une petite parenthèse, quand vous critiquez les riches, vous êtes sûr de rester pauvre. Donc, tant qu'on a cette critique sur les riches, ça va être très difficile de s'enrichir.
Ça y est, j'ai trouvé ma première résolution 2015. Arrêtez de critiquer les riches.
Waouh, ça c'est une bonne chose. Quand vous changez votre état d'esprit, tout change, donc bravo.
Conseil numéro 4, changer d'état d'esprit.
Alors donc, à nos auditeurs chômeurs, par exemple, si vous voulez vous en sortir, justement, mettez-vous dans cette spirale positive.
Exactement. Par exemple, quand vous allez commencer à sourire et à vous focaliser à rendre service, vous allez très facilement trouver un travail. Ce qui a changé pour moi, c'est que j'ai arrêté de me plaindre. J'ai commencé à me dire comment je peux apporter de la valeur, comment je peux rendre service au monde.
6 Français sur 10, justement, estiment que les demandeurs d'emploi pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment.
Absolument. Un sourire et le désir d'aider, vous obtenez un travail au quart de tour. Et après, c'est bouger ses fesses. Mais si vous attendez que l'argent va tomber du ciel et qu'on va s'occuper de vous, vous allez avoir un vrai problème. Parce qu'en 2015, ça va être encore pire. 2016, ça va être encore pire. Et 2017, ça va être encore pire.
Vous voulez un petit gâteau, Max?
Non, ça va, je prends pas de sucre.
Voilà. J'ai tout fait tomber. Les meringues, tout ça par terre. Oh là 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 là.
C'est pas grave, c'est tellement propre, vous pouvez les manger.
Pardon, j'ai mis des miettes par terre.
Conseil numéro 5. Devenez l'entrepreneur de vous-même.
J'ai vu aussi que vous parlez de principe de maximisation de son potentiel. Maximiser son potentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire rentabiliser, optimiser?
Dans la vie, soit vous êtes en mode croissance, soit vous êtes en mode décroissance.
Faites comme ça avec la main. Croissance, décroissance.
Exactement.
Hop, hop.
Soit vous êtes en montée, soit vous êtes en descente. Je cherche toujours à croître. J'ai personnellement investi littéralement des dizaines de milliers d'euros en 2014 et je continue à le refaire en 2015 pour croître, pour m'améliorer en tant qu'entrepreneur, pour m'améliorer en tant qu'être humain, en tant que partenaire. Une des clés de la réussite, c'est investir en soi.
Mais là, vous voulez dire, on est tous, en fait, dans votre modèle, la petite entreprise de soi-même. On est son propre business.
En quelque sorte, c'est tout à fait ça. On est notre propre entreprise. Je recommande clairement aux gens d'investir 5 à 10% de leurs revenus en croissance personnelle.
Et pour finir,
merci.
Faites-vous plaisir.
Vous avez commandé un cocktail, là?
Alors, c'est un smoothie aux légumes, hein, qui m'a l'air délicieux. Oui, parce que pour moi, la santé, c'est tout. C'est, pour moi, la richesse numéro 1, c'est d'être avant tout se sentir bien dans sa peau.
Ça, c'est un petit smoothie aux légumes, c'est au concombre.
C'est que souvent, il y a quoi? Concombre?
C'est concombre, céleri, gingembre et un petit peu de citron.
Donc voilà, concombre, céleri, citron et...
gingembre.
Et gingembre. Voilà. Parfait. Merci à vous.
C'est concombre, céleri, gingembre.
C'est magnifique, hein. On est très bien pour le début d'année.
Concombre, céleri, gingembre.
Chers auditeurs de France Inter, meilleurs vœux pour 2015. L'année du succès.
Comme un bruit qui court, l'émission qui vous apportera bonheur et réussite. Joyeuses années 2015.
Et si demain j'arrêtais de boire, et si demain je voulais plus te voir, et si demain j'en avais marre de voir ta gueule dans le miroir, et si demain j'en pouvais plus de savoir les courbes de ton cul, et si demain c'était foutu. Et si demain fallait que je parte, et si demain fallait que j'embarque dans une autre barque que la tienne. Direction où le vent me mène. Et si demain j'étais chômeur, et si demain j'attrapais peur, et si demain j'avais plus de thunes de plus pouvoir t'offrir la nuit, et si demain ma gourmandise faisait qu'une autre que toi ne luise dans les remises de mes fantasmes, sur les gravats de mes vieilles histoires. Et si demain il faisait beau, et si demain je mettais les voiles, et si demain j'étais heureux, que j'avais plus besoin que d'âle. Et si demain il faisait beau, et si demain je mettais les voiles, Si demain j'étais heureux, je n'aurais plus besoin de que dalle.
Merci à Max Piccinini que vous pouvez retrouver sur son site internet. Si vous aussi vous souhaitez accéder à la réussite, www.reussitemax.com. Le bonheur, le vrai, certains l'ont peut-être trouvé dans un petit coin de Bretagne où nous nous rendons maintenant.
Toutes les semaines, Vincent et Laurent livrent en pain et en viande l'épicerie bio de Trémargat qui a ouvert en septembre dernier.
Salut.
Une épicerie gérée par un collectif d'habitants qui fait la part belle aux produits locaux.
Jennifer et Bruno sont agriculteurs à Trémargat. Quand ils se sont lancés, ils ne disposaient que d'une dizaine d'hectares de terre, pas assez pour nourrir leurs troupeaux constitués d'une quarantaine de brebis et d'une quinzaine de vaches allaitantes.
Trémargat.
Les terres agricoles sont rares et trop chères. Pour Jennifer et Bruno, touchés par leurs difficultés, la commune se mobilise.
Ah non, c'est pas la voiture du jour.
Allez, passons aux choses sérieuses. On met les voiles, on part en balade à Trémargat. Trémargat, c'est une petite commune au cœur du centre-Bretagne qui, depuis plus de 20 ans, expérimente dans son coin de campagne comment vivre autrement. Halte au modèle agricole productiviste qui pollue à tout va, utilise des gros engins, fait disparaître les voisins, fermer les écoles et mourir les villages. Halte là ! Et en avant pour les alternatives, l'écologie, le collectif et la solidarité. Travailler le pays et l'utopie à la fois. C'est donc possible puisque ça marche à Trémargat et c'était déjà le credo du mouvement des paysans travailleurs de Bernard Lambert qui deviendra la Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans en 81 puis la Confédération paysanne. Attention, ceci est une histoire vraie.
Alors Yvette Clément, vous êtes maire de Trémargat.
Ouais.
Ici en Bretagne, dans le centre de Bretagne,
voilà.
Côte d'Armor.
Dans les Côtes d'Armor, oui.
Qu'est-ce qui se passe de particulier ici? On parle beaucoup de Trémargat comme un laboratoire de plein de choses.
C'est vrai qu'on est assez un peu sous les feux de la rampe souvent parce qu'on intrigue probablement. Pourquoi? Parce que peut-être c'est un peu différent d'ailleurs. Voilà, les gens vivent un peu différemment, en tout cas en solidarité.
En solidarité, vous dites,
oui. En solidarité, oui, les choses se passent ici en concertation, en dialogue, en... je sais pas, c'est un peu la théorie du vivre ensemble qu'on réussit bien, je trouve. C'est pour ça aussi que Trémargat se développe dans les bourgs avoisinants. Là, il y a beaucoup de maisons à vendre. Les habitants se découragent et partent sûrement ailleurs. Et ici, c'est l'inverse, on n'arrive pas à loger tous les gens qui arrivent ici, qui veulent un peu vivre ici avec nous parce que peut-être l'ambiance est différente et moins déprimante qu'ailleurs, je sais pas.
Alors c'est quoi cette théorie du vivre ensemble?
J'ai l'impression que tout ça a une histoire quand même. Quand on s'est installé, nous, paysans, moi je suis paysanne, j'élève des brebis, on s'est installé en 78 comme paysans sur cette terre, qui étaient des terres pauvres, mais il y avait une déprise agricole, si bien qu'il y avait de la place pour installer des jeunes. Ça correspondait un peu, on appelle ça un peu le canal historique de Trémargat. Ça s'est passé, on s'est tous installés en fait sans moyens du tout. On partait tous à zéro. Et je crois que la solidarité est venue un peu de là, c'est qu'on avait besoin les uns des autres, ne serait-ce que matériellement. Je me souviens au départ, on avait des tracteurs. C'est rare que ça démarrait le matin, il fallait toujours le voisin pour se tirer mutuellement pour démarrer la journée. Des choses comme ça.
Mais vous veniez d'où, vous, alors, Yvette?
Mais moi, je suis du coin. De Lanrivain, c'est une commune à 5 km d'ici. On était tous jeunes à la fois et plein d'idées, plein de fougues sûrement. Et puis, on s'est bien entendus. On avait un peu tous les mêmes théories de travailleurs paysans. On était au même syndicat, tout ça. Et puis, on a eu des luttes à faire et on les a faites ensemble. Et c'était un syndicat, une émanation un peu de tous les mouvements du Larzac et autres, là. Nous, on estimait qu'on était des travailleurs de la terre et puis on devait être rémunérés selon ce que coûtait à produire nos animaux et que ça permettait de rémunérer le paysan et ça évitait peut-être à des gens de s'agrandir et de prendre la place et de la sauvagerie qu'on connaît maintenant dans dans le monde paysan, c'est-à-dire que c'est toujours voilà, le gros qui mange le petit, et puis ça, c'est une chaîne sans fin, quoi.
Oui, ça arrive pas de nulle part aujourd'hui, quand même, cette aventure très margate, ou cette expérience très margate.
Bah, moi, je parle de la mienne, personnellement, et du groupe de paysans, là, voilà.
Mais vous êtes maire aujourd'hui, quand même.
Ouais, je suis maire, oui. J'ai été choisie, parce qu'en fait, ici, il y a une histoire particulière. Si le maire change à chaque mandat, on reste pas s'incruster dans la place, en fait. Ça tourne à chaque élection. Donc voilà, c'est mon tour, c'est tout, hein. c'est pas plus grave que ça.
Et là, vous allez livrer de la viande, hein, c'est ça?
Ouais, alors la route n'est pas très carrossable. Hein. Et en fait, c'est une route qu'on emprunte parce que moi, j'élève des brebis. Et en fait, l'été, on transhume, on amène une partie du troupeau sur des landes, là. Et on passe par ces chemins, en fait, là. Et donc, l'habitude est prise en voiture aussi, quand on va voir les brebis. Voilà, on passe par ces chemins. Plutôt des pistes, voilà. Ah, ça y est, on est sur le Vaudron, c'est bon.
Alors pour les paysans travailleurs, dès que les premières informations,
Larzac,
même incomplètes ou déformées, nous sont parvenues, le problème du Larzac nous a accrochés.
Nous sommes venus dire
1973
un certain nombre de choses,
Bernard Lambert,
à ceux qui nous gouvernent. Jamais plus les paysans ne seront des Versaillais. Jamais plus ils ne s'opposeront à ceux qui veulent changer cette société. Nous l'avons prouvé.
Pourquoi ces fermes-là se sont trouvées libres tout en même temps, quoi, dans les mêmes années?
Ah, les fermes que vous avez récupérées dans les années 70,
oui, voilà, ça s'est tout retrouvé libre à louer dans ces années-là, parce qu'en fait, il y a eu une histoire particulière sur Trémargat, c'est que dans les années 60, 63, 65, des pieds noirs, des rapatriés d'Algérie sont venus s'installer dans notre commune parce qu'il y avait beaucoup d'exode rural, les gens ne restaient pas. Parce que ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est que la terre est très pauvre, elle n'est pas du tout fertile. Et donc, les agriculteurs ne conseillaient pas du tout à leurs enfants de rester. Ils leur disaient plutôt d'aller voir en ville, voilà, les boulots d'ouvriers ou autres. Si bien que les pieds noirs là, se sont installés ici à Trémargat. Je crois qu'il y avait 5 fermes. Alors ils ont employé des grands moyens. Ils avaient des aides pour s'installer au pays. Mais en fait, ils ne venaient pas exploiter eux-mêmes les fermes. Ils ont acheté des grandes surfaces. Ils les ont remembrées. Ils ont fait des bâtiments. Et puis, ils menaient ça de façon... ce qu'ils avaient l'habitude de faire, c'est-à-dire ils avaient des gérants, des ouvriers, 5 ou 6, enfin voilà. Ça n'a pas tenu le coup du tout, évidemment, au niveau rentabilité, ça s'est vite cassé la figure. Et puis, ça a laissé place, finalement, bien à d'autres expériences. Et nous, on s'est retrouvés à s'engouffrer dans la place qui était laissée libre par ces faillites là, de pieds noirs. C'est un peu ça aussi qui a fait qu'on s'est trouvés à se grouper sur cette terre ici, et sur Trémargat, en fait. Ce qui est une histoire vraiment particulière à Trémargat. Je m'arrête ici.
Et j'ai goûté le mouton tout à l'heure au restaurant du village.
Chez Nathalie.
Ouais, ouais. Au coriandre. Ouais. Alors ça fait partie aussi de la dynamique du village, c'est-à-dire que c'est les produits locaux qui sont servis au restaurant.
Et... voilà, et à l'épicerie aussi, ouais, bien sûr, ouais, oui. Ouais. On a quand même toujours été un peu un pays rouge, hein, et assez anticlérical aussi à la base, oui.
Alors ce coin, c'est quoi alors, c'est...
Moi, j'appelle ça le centre-Bretagne en général, ici. Quoi. C'est ça, voilà. Il y a des idées un peu plus généreuses et tout ça, je pense, ici, dans ce coin ici. Donc, en fait, il n'y a personne. Je pense qu'ils vont trouver ça. Ici, en Bretagne, on a été traumatisés, je pense, par le développement agricole des années glorieuses. Là, les 30 années là, qui ont fait un dégât monstre. Et je pense que nous, on a été un peu marqués, ou on a pris conscience, en tout cas, qu'il ne fallait pas faire la même chose, qu'il fallait surtout préserver l'environnement. C'était un peu ça, les idées de base. Et à partir de là, eh ben, on se dit qu'il faut prendre la maîtrise du truc. Il ne faut pas laisser les choses se faire comme elles se font. Et c'est un peu parti de là qu'on a, dans nos fermes, pris des mesures pour respecter l'environnement. Moi, il y a un truc qui m'a toujours fait un effet incroyable, c'est de m'entendre dire qu'en 30 années d'agriculture productiviste, là, on avait réussi en Bretagne à polluer toutes les sources, alors que Bah, depuis la nuit des temps, l'eau était limpide, claire et bonne à boire. Et ça, quand on découvre, je sais pas, une chose pareille, on se dit mais non, mais on va pas contribuer à ça, quoi. On va faire autrement et on va prendre les choses en main, voilà, un peu. Et puis on va donner notre direction. En commençant par nos fermes, après, ben, de fil en aiguille, on se dit ben, le terrain qu'on connaît le mieux, c'est aussi la commune. Alors voilà, et c'est un peu comme ça qu'on devient acteur, quoi, sur le pays, quoi, sur l'avenir un peu du pays quand même. Voilà.
Merci.
Donc, merci. Merci. Pas bon, ben, merci bonne beaucoup, fête à vous.
Bonne fête à vous aussi.
On y va. Le conseil municipal, c'est vrai que c'est un endroit justement où on peut mettre en œuvre un peu toutes ces directions de développement. Je trouve que c'est là quand même que se prennent des décisions. Et puis on avait du résultat dans la discussion, tout ça. Et puis on a complètement été élus, tous les jeunes là, agriculteurs voilà, de la commune.
C'était quand ça?
Alors ça, c'était dans les années 95, il me semble.
Donc ça fait bientôt 20 ans maintenant.
Voilà, c'est ça, ouais. En changeant de maire à chaque fois et puis en essayant aussi de...
Donc un seul mandat, c'est ça?
Un seul mandat, oui. C'est bien que les gens aussi tournent dans ces places-là parce que c'est quand même dans les premières années qu'on a beaucoup d'idées, beaucoup d'envie de faire aussi, quoi. Et puis après, peut-être qu'on se fatigue un peu. Donc voilà, c'est pour un peu cette idée de vitalité et puis de, voilà, d'énergie qu'on a.
Allez, on continue la livraison.
Alors, on continue.
Alors, il y a beaucoup de paysans agriculteurs sur la commune.
Oui, on est fiers de ça parce que pour une surface... La commune fait 1400 hectares, il n'y a que 600 hectares à peu près de terres agricoles et on est 14 fermes sur les 600 hectares. Ça fait voilà, des paysans nombreux sur une surface réduite, quoi. Donc on est content de ça parce que dans le monde actuel, ou en Bretagne ou même ailleurs d'ailleurs, les gens s'agrandissent et puis finalement il ne va plus rester qu'un paysan par commune bientôt et puis c'est le désert plutôt qu'autre chose. Et puis avec aussi une agriculture qui ne satisfait pas, quoi, avec des gros moyens. Et voilà, on préfère avoir des voisins que des gros engins. On dit ça tout le temps.
Faut préférer avoir des voisins que des gros engins.
Voilà, c'est ça. Ouais, non, on est vraiment pour l'agriculture paysanne. Voilà.
Mon arrêt, pas un. Dans mon escalier au braille. Aguero et Véfamlaza. Traillon Mendo Moraille.
Donc vous faites une petite transhumance l'été.
Voilà, c'est ça, ouais. Donc on laisse un troupeau ici passer 3 mois l'été. Elles sont bien là, c'est un super endroit de nature. Il y a pas, voilà. C'est très préservé, très beau, très sauvage aussi, voilà. On est content de ça aussi. En fait, nous on arrive à la génération où ben voilà, on arrive en retraite. Puis tous nos voisins, eh ben, on voit que finalement il y a de l'installation. C'est super.
Weza quoi, weza weizen.
Alors, je m'appelle Éric Bréhin, j'habite à Trémargat depuis une douzaine d'années, j'ai 43 ans. J'ai été maire de la commune pendant 6 ans. J'ai 2 enfants.
Alors une situation comme vit aujourd'hui cette commune, avec des expériences de démocratie participative un peu poussées, ça tombe pas du ciel, c'est pas un coup de baguette magique, ça vient d'où? Comment on en arrive là?
Donc moi je pense qu'il y a une histoire assez longue, il y a pour moi un vieux fond culturel d'égalité, de respect mutuel, de travail en commun. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit aux générations qui nous ont précédés depuis longtemps.
Une tradition de lutte, c'est ça? C'était les terres rouges ici?
Alors oui, elles ont été qualifiées par les sociologues ou les historiens qui ont travaillé sur la chose de campagne rouge. Alors, elles s'étendent en fait depuis les Monts d'Arrée jusqu'à une partie du Trégor et puis ici jusqu'en Centre-Bretagne. Et donc, c'est vrai qu'il y a ces valeurs de travail paysan en commun, d'échange de travail et ces valeurs de partage qui sont profondément ancrées. Donc, je pense qu'il y a une histoire de plusieurs décennies, en fait, qui a attiré des gens qui avaient envie de faire des choses dans un endroit où il y a eu des terres à reprendre. Donc, en un sens, il y avait un espace qui s'était libéré pour eux. Il y avait la possibilité d'y investir leur amour du lieu aussi, parce qu'on en parle peut-être pas suffisamment. On vit aussi dans une nature très préservée. Il n'y a pas eu de remembrement. Il y a un paysage de bocage qui est magnifique. Il y a des paysages de landes, de forêts, des chaos rocheux. Enfin, il y a aussi il y a une harmonie entre les gens, mais il y a aussi une vraie relation à la terre, une vraie relation au paysage.
Il y a plein de choses.
Tu vas voir la courbe du chemin.
Ce petit chemin qui sent la noisette. Et ouais, donc ça, c'est les chemins creux.
Plus ou moins haut ici, ils sont pas très hauts, mais
qui permettent d'aller d'un champ à l'autre et d'une ferme à l'autre, c'est ça? Un peu à l'abri.
Celui-là, il fait le tour du village un peu.
Par ici, hein. Ah ouais, et on passe entre des gros rochers, parce qu'il y a plein de rochers, des grosses pierres. Ah, ça, c'est des petits rochers.
Il y a des jolis cailloux ronds. Tu les vois un peu plus loin, là.
Il y a des belles balades ici. C'est quand même une nature qui est préservée, hein,
voilà,
par rapport
ouais, très sauvage, quoi.
Au reste de la Bretagne, non?
Ah ouais, je pense. Il n'y a pas eu de remembrement déjà. Alors, il reste beaucoup d'arbres et puis c'est très sauvage.
Ouais. C'est des terres rudes, quoi.
Là déjà, le vert, tu vois, les différents verts qu'on voit, là. On les voit déjà pas mal. Mais alors, quand il y a du soleil, c'est trop beau. C'est magnifique. Il y en a plein des chemins de randonnée, enfin des chemins de balade, quoi, après Margat même.
Ouais. Et toi, Anne, tu te promènes souvent dans ces chemins creux, là?
Ouais, je pense que tout le monde aime bien se balader autour d'ici, quoi.
Profiter de cet environnement et aussi, du coup, le protéger, quoi. C'est ça aussi l'idée, non?
Ben oui, complètement, hein, quand même, l'entretenir et le préserver, quoi. Ouais.
Donc toi, t'es pas d'ici, mais t'as découvert dernièrement, là, tu partirais plus, c'est ça?
Ah non, là, je ne vais plus partir, là, ça c'est sûr. Après, je n'ai pas découvert dernièrement, j'ai découvert il y a 16 ans, quoi, le Centre-Bretagne, dans un petit village pas loin d'ici. Par la suite, j'ai connu Trémargat, ouais.
Et c'est particulier, Trémargat, alors?
Ça serait bien que ça ne soit pas, parce que si c'est particulier, juste parce que les gens sont solidaires les uns des autres, ou parlent, discutent facilement, s'invitent facilement, c'est des choses vachement simples, en fait. Donc, si on est un peu hors du commun, c'est dommage. J'espère que non. Apparemment, on l'est quand même un peu. Bon, après, c'est la concentration de gens écolos aussi qui fait qu'on est un peu hors du commun, je pense. Moi, en tous les cas, je me sens bien ici. Parce que c'est des petits bonheurs, des échanges, des relations humaines de base, quoi. Je sais pas si je suis très claire, mais...
Oh, bah si. Et là, on arrive dans un petit sous-bois. On est un petit peu à l'abri de la petite pluie qui tombe. Mais bon, on s'habitue, hein.
Il pleut pas tout le temps en Bretagne. Il fait beau plusieurs fois par jour, c'est pas pareil.
Ah, il y a un gros caillou aussi avec un arbre qui pousse au centre du caillou. Ah là, ça devient magique, hein, c'est sûr. Là,
ça devient magique, carrément.
Très Margate, et même les arbres peuvent pousser sur des cailloux. Voilà, les arbres poussent sur des cailloux. Il paraît qu'il fait bon vivre ici, en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Et donc, c'est la municipalité de Trémargat qui semble un exemple. Alors, on est là aujourd'hui, voilà, pour ce petit conte de Noël, cette utopie réalisée, une véritable démocratie participative ici en marche, en expérience. En Bretagne, dans ce petit village de Trémargat, à peu près 200 habitants. Voilà, il y a des voitures avec l'autocollant non à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Effectivement, c'est quand même un endroit plutôt engagé qui prend position sur ces débats de société comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou les grands projets inutiles. Ici, on essaye de vivre avec le nécessaire, sans en demander trop à la nature, au système néolibéral, à l'économie. On fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on veut. Et j'ai l'impression que les gens vivent assez bien ce parti pris. On est devant le Trémargat. Alors c'est un bar associatif, c'est ça? On est au centre là, hein, c'est centre-village.
C'est une association, une collégiale, donc il y a 8 présidents en ce moment. Voilà. Et on est 2 salariés à travailler à mi-temps tous les deux au café. Quand le gérant a quitté, il y avait plusieurs repreneurs et une association s'est créée parce qu'il voulait que ça reste, j'imagine, dans le village, quoi, des gens du village qui s'en occupent et qui le gèrent. Donc l'association s'est créée. C'est pas par manque de repreneurs pour autant, c'était pas pour sauver le café du village, parce qu'il y en avait quand même, il y avait quand même des repreneurs. Et ce café-là, il a cette particularité d'être... Enfin, pour un café de village, c'est super agréable de travailler ici, en tout cas, parce que tout le monde vient ici, en fait, que ce soit des gamins, des ados, des jeunes de 20-30 ans, et t'as tous les vieux retraités du coin qui viennent aussi boire un petit coup, et c'est vachement agréable, quoi. C'est très ouvert et très agréable pour ça.
Mm. Du coup, ce qui est important, c'est que c'est un lieu de vie, un lieu de rencontre, c'est ça, et de sociabilité dans le village.
C'est le but. C'est le but. Et c'est vrai qu'après, si le café n'était plus là, il n'y aurait certainement pas la même ambiance à Trémargat. Hein, ça... Après, je ne dis pas que tous les... Combien il y a d'habitants? 190? Je connais pas les 190 habitants de Trémargat. Hein.
191.
Oui, il y en a un nouveau.
Nous avons une naissance la semaine dernière.
Ah bah voilà Yvette. Ah non. C'est pas la voiture d'Yvette? Ah non.
Et là, il y a du monde, alors, ici, au bistrot. Et ce soir, c'est soirée tarot, c'est ça?
Ouais. Alors ça, c'est une institution aussi. Hein. Il y a tarot depuis, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans. Ça, c'est vachement agréable.
Ça sert à toutes les occasions. C'est un lieu collectif où tout le monde peut organiser quelque chose. Et c'est ça qui est bien. Il faut une salle comme ça dans tous les villages.
C'est différent des autres cafés?
Il est différent dans le sens où il appartient à tout le monde, quand même. Il n'y a pas un projet qui a voulu se faire ici et qui a été refusé par la collégiale des présidents ou qui que ce soit. Enfin voilà, on peut y faire ce qu'on veut.
Oui, c'est pas comme dans un bar privé où du coup tu dépends du propriétaire, quoi. Enfin, du gérant lui-même, voilà. C'est pas lui qui décide, quoi. Ici, c'est une association. Donc c'est comme toutes les associations, c'est le même principe, quoi. Ça appartient à tout le monde dans le village. Je trouve que, enfin là, quand j'ai été embauchée, ils étaient 6 et ça tourne depuis, quoi. Et là, il y a encore des jeunes qui font partie du bureau, qui prennent la responsabilité du café, quoi. Qui sont en charge de la trésorerie, qui sont en charge des emplois, qui sont en charge de plein de choses, quoi. Donc c'est une responsabilité aussi. Et c'est bien de voir que ça tourne et que, enfin voilà, les gens ici tout est associatif quasiment. L'épicerie est associative, le bar est associatif. Il y a un groupement d'animation qui est donc associatif. Mais c'est bien de voir qu'ici, quand même, les gens continuent à participer. Il n'y a pas vraiment de lassitude.
Il y a une spécificité à Trémargat, faut être clair. Il y a des, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le dialogue, qui ont envie de construire, et tout, etc., qui essaient de faire au mieux, parce que si c'est déjà ça, hein, c'est essayer de faire au mieux. Il faut voir que c'est on est quoi, 190 habitants à Trémargat. Voilà, c'est une petite commune à gérer, c'est pas facile, donc il faut mutualiser, les gens ils s'aident, ils s'entraident, etc. Certes, c'est vrai tout ça. Pourquoi ça se fait pas à côté? Parce que il y a peut-être pas ici les querelles de pouvoir comme il peut y avoir dans d'autres communes ailleurs, mais on n'est pas non plus à l'abri. Ça peut arriver demain que quelqu'un rachète un truc, dise bah tiens, bah non, bah, je vais pas aller sur la liste ouverte, j'ai monté une liste B pour les prochaines élections. Et voilà quoi, ça peut arriver aussi, on n'est pas à l'abri. Et de la même manière que n'importe quel village à côté, ils sont pas à l'abri de se rendre compte que bah, le système comme il est jusqu'à présent ici, il fonctionne, bah pourquoi pas l'adopter. Voilà. Ça peut arriver. Je pense que c'est ça d'ailleurs le message qu'on a peut-être à passer aux gens. C'est qu'ici, il y a un bar associatif, ça fonctionne. Il y a une épicerie associative, ça fonctionne. Il y a un super resto à côté, ça fonctionne, on mange bien. Il y a un fonctionnement municipal, effectivement, qui est particulier, mais qui fonctionne. Il y a tout ça. Ces choses-là, faut véhiculer, quoi. C'est sûr.
Ainsi va la vie d'ici, qu'elle a d'ici bas. Débarqué batterie de premier pas dansé à l'bord des écoliers. Balancé dans l'air sans avoir d'air saoulé dans le temps. Au fond la nuit d'avis de souffler qui s'est tiré, dit c'est bon, ce temps de plus. Si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit. Depuis qu'est pas costumé, va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous donc, dans des mondes où beaucoup désir ici, efficace et d'abord passé. Sur ton accord de bantou, tout chaque jour, j'ai coulé passer la gila du bout des doigts, d'aussi l'eau sont chassés, tu médites, tout est froid, t'es face au firmament, une note cassée. Casse mon année, plus jamais dans la scène, la musique a fini, mélodie qui vit, et file la masse, on va dédicacer la bas dans l'horizon. Sur ton accord de bantou, tout chaque jour, j'ai coulé passer la gila du bout des doigts, d'aussi l'eau sont chassés, tu médites, tout est froid, t'es face au firmament, une note cassée. Casse mon année, plus jamais dans la scène, la musique a fini, mélodie qui vit, et file la masse, on va dédicacer la bas dans l'horizon. Ainsi va lui battre la vie ça va, tu l'as dit. Au bal aussi, c'est là que t'as tout vu passer, le passé dépaysé. Vas-y, l'évasif, vas-y, l'enfant tout petit déjà. Jadis, on a dit, mais il n'y a que c'était comme t'es doutu là, parce qu'on m'a con. Si c'était dommage, si c'est un hommage aux hommes assis devant, vu de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous donc, dis, dans des mots doux, vos doux désirs, ici, efficace et d'abord passé. Si l'ombre est là, disparaît tout. Vrai comme pec qu'un désir ambitieux assure les mains libère tout l'animal sans passer la cauche comme t'es la hey da 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 da.
Et si c'était ça la vie? Et si c'est possible à Trémargat, c'est possible ailleurs. Un chantier à démarrer tout de suite, une bonne résolution pour 2015. C'est à nous de jouer. Merci à Yvette et François Clément, Éric Bréhin, Anne, Aurélie, Claire et Maudet du Trémargat Café.
Comme un bruit qui court.
Chers auditeurs, nous le savons, des études nous l'ont démontré, vous en avez soupé des bêtisiers de fin d'année. C'est pourquoi, comme un bruit qui court, vous propose avant la rentrée une nouvelle séquence pleine de bonnes résolutions. Combien ça gagne? Et pour cette mission très spéciale, nous avons fait appel à une des meilleures journalistes de bureau de Paris, Maya Neskovic. Bonjour Maya.
Bonjour Yves.
Vous nous avez rejoint exceptionnellement pour nous aider à penser avec des chiffres et avec des faits. Or, les chiffres sont là. Selon Challenge, en 2014, l'Aura France aura compté 12 milliardaires de plus que l'année précédente, soit un total de 67 milliardaires dans notre beau pays, contre seulement 55 en 2013. Alors si vous aussi, chers auditeurs, vous voulez jouer dans la cour des grands, il vous faudra apprendre à trouver les marchés et créer les occasions. Maya, et si l'économie de marché n'était pas morte ?
Alors bien sûr, évidemment, il fallait moraliser le capitalisme. Mais n'a-t-on pas un peu oublié quand même de valoriser l'esprit d'entreprise ? Dans l'économie mondialisée où nous avons la chance d'évoluer, les opportunités de développer une activité existent. Elles sont même nombreuses.
Oui, mais à condition de ne compter ni ses heures ni sa sueur, de savoir bien regarder et de ne se fermer aucune porte. Car comme le disait si bien Nicole Notta, Gutenberg n'a pas attendu le développement du marché du livre pour inventer l'imprimerie.
Ah, ça c'est bien dit.
Bilan et perspective.
Les chiffres clés.
Forces et faiblesses.
Combien ça gagne votre argent ? Parlons-en.
Les chiffres clés.
Forces et faiblesses.
Parier sur l'avenir.
Challenge et défi.
Bilan et perspective.
Combien ça gagne ?
Bienvenue. La France qui gagne dans un monde qui bouge.
Combien ça gagne ?
Combien ça gagne votre argent ? Parlons-en. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un secteur un peu négligé par la presse économique traditionnelle, mais qui mérite pourtant toute notre attention tant ses perspectives de croissance sont énormes et ses plus-values conséquentes.
Alors je vous propose une petite devinette. Je suis un marché d'à peu près 400 milliards de dollars à l'échelle du globe, reposant sur une diversité de consommateurs fidèles, voire captifs, dont le nombre ne cesse d'augmenter, et ce, quel que soit l'environnement macroéconomique.
Je mobilise de nombreux corps de métiers qui vont de l'agriculture à la chimie, en passant par la logistique, le transport, la distribution et le marketing. Je suis...
Allez, un petit indice sonore.
Et oui, je suis le marché florissant du commerce de stupéfiants, que certains s'obstinent à appeler aussi, mais c'est moins joli, le narcotrafic. Pour débuter cette série d'émissions positives, on a effectivement choisi de rester dans les valeurs sûres parce qu'avec, répétons-le, 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, Facebook, Google, Twitter et autres 2.0 ont encore du chemin à faire.
Alors que ce soit la schnouf, la coco, la marijane, le speed, l'acide et autres méthamphétamines, les marques ont pu changer mais leur succès ne s'est jamais démenti. Ce qui fait du trafic de stupéfiants, d'après l'OMS, le troisième commerce dans le monde, juste derrière le marché du pétrole et de l'alimentation, devant même le marché des armes et des médicaments, un marché estimé à 210 millions de clients fidèles.
Avant de vous lancer, il faudra bien sûr identifier la branche qui vous correspond le mieux. Sachez tout de même que l'Observatoire géopolitique des drogues estime que la répartition des revenus des stupéfiants dans le monde est la suivante. Écoutez bien, producteurs 2 à 5%. Transformateurs et intermédiaires nationaux 15%, transporteurs et trafiquants internationaux 26%, mais le meilleur, distributeurs dans les pays consommateurs 54%.
Alors, pour vous mettre vraiment l'eau à la bouche, commençons par un exemple concret, celui d'une entreprise prospère du nord de Marseille qui affiche une réussite spectaculaire dont la presse s'est fait l'écho.
Combien ça gagne ?
Ça gagne.
Je commence à l'âge de 13 ans à vendre du shit. On me propose une paye de 250 euros en une journée. Tu vas pas travailler toute la journée pour 80 euros et laisser les 250 euros de côté, tu es d'accord avec moi ?
Les chiffres du réseau de la Cité de la Visitation donnent le vertige. Au bas de l'échelle, les guetteurs 100 à 200 euros par jour. Les nourrices qui stockaient la drogue à leur domicile gagnaient eux 5000 euros par mois. Enfin, les tenanciers partageaient les 110 000 euros de bénéfices mensuels du business.
Quand tu es en haut du réseau, tu peux gagner entre 40 000 et 80 000 euros. Si de toi-même tu veux faire plus, tu peux faire plus.
En voilà un qui avait bien compris que pour gagner plus, il fallait travailler plus. Mais au-delà de l'énergie et de l'ambition qu'on ressent chez ce jeune homme, quelles sont les clés du succès ? Pour le savoir, donnons la parole aux experts.
Parole d'experts sur France Inter.
Parole d'experts avec le Dr Square. Dr Square, vous êtes l'un de nos consultants en Business Management Opportunity. Alors dites-nous, que faut-il pour réussir sur ce marché ? En d'autres termes, quels sont les facteurs clés de succès ?
Alors vous posez une question importante, comment ça marche ? Eh bien je dirais que c'est un marché où les dealers peuvent facilement devenir des leaders.
Oh, très très bonne formule.
Eh bien la clé du business, c'est la relation one-to-one et la fidélisation. Là en l'occurrence avec ces produits, le consommateur ne fait pas qu'exprimer un besoin. Il ressent rapidement un manque si son besoin n'est pas satisfait. Ça, c'est le rêve de tous les commerciaux. On est face à un marché captif où on peut tenir une promesse formidablement simple en termes de service. Donc, c'est très facile de pérenniser l'offre.
Merci, Dr Square. Je crois qu'on a bien compris. Restez, si vous le voulez bien, place maintenant à notre séquence témoignage du jour.
Le témoignage du jour.
Le témoignage du jour.
Notre témoignage, celui de Pierre-Marie, jeune entrepreneur qui va nous aider à comprendre un autre point essentiel, celui du management et du leadership.
On va parler entreprise. Vous allez dans n'importe quelle entreprise, que ce soit dans la vente ou un commercial, comment il marche, c'est qu'il rapporte. On est bien d'accord. Je parle pour le shit, et ben ça marche dans le même procédé. Vous avez un patron, vous avez un chef d'équipe et vous avez des ouvriers. Les ouvriers, s'ils rapportent pas, ils n'intéressent pas le patron. Parce que moi, si je vends pas, je touche pas. Il m'appartient pas le produit, je le vends. On est bien d'accord.
Si nous récapitulons, une hiérarchie bien intégrée et une juste pression managériale sur les cadres commerciaux est donc une des garanties du succès. C'est la méthode qu'avait appliquée celui qui est plus tard devenu un modèle à la fois craint et respecté par toute la profession, le Colombien Pablo Escobar.
Pablo Escobar et son cartel étaient encore plus importants que son propre gouvernement. C'était le Léonard de Vinci du crime, le plus gros des trafiquants. Il était devenu le roi de la cocaïne.
Pour transporter sa marchandise, il multiplie les routes, par la mer, par les airs. À coups de centaines de kilos, la cocaïne est acheminée vers les États-Unis et l'Europe. À cette époque, cette drogue est à la mode, la demande explose. Escobar n'est jamais à court d'idées. Pour livrer à domicile ses bons clients américains, il va même jusqu'à faire construire ce sous-marin.
Alors depuis, Pablo Escobar a dû prendre une retraite anticipée mais bien méritée. Et s'il y a une leçon à retenir de son stupéfiant parcours, c'est que son talent a été de faire de chaque difficulté un atout.
Première leçon à tirer jusqu'ici, confronté à une législation, il faut le dire, très contraignante, il vous faudra donc multiplier les filières d'approvisionnement, développer et entretenir votre réseau pour vous entourer efficacement et travailler dans un environnement serein et business friendly.
Autre point faible qu'il faut avoir présent à l'esprit, la durée de vie des clients. L'ONU estime en effet à 200 000 les morts par overdose chaque année dans le monde, ce qui vous obligera à constamment rechercher de nouveaux marchés et donc à développer un marketing combatif. Il est temps à ce stade de l'émission de se projeter un peu dans l'avenir. Combien
ça gagne?
Ça gagne.
Paris sur l'avenir.
Et si vous avez bien travaillé et suivi attentivement nos conseils, il vous faudra très vite envisager des solutions de placement efficaces pour mettre le fruit de vos efforts à l'abri. Certains appellent ça un peu vulgairement le blanchiment. Nous préférons parler tout simplement de réinvestissement et de diversification de vos activités. Dr Square, vous êtes toujours avec nous. Merci d'être resté. Alors, s'il vous plaît, donnez-nous quelques pistes.
Ah ben là, il faut parler sans tabou. Je crois que le blanchiment, c'est une industrie à part entière. Tous les entrepreneurs savent ça. Dès lors qu'on a un petit peu de succès, la stratégie, c'est l'art de diversifier son portefeuille d'activités. Il y a l'immobilier, les produits d'assurance, les placements offshore, l'investissement dans les paradis fiscaux, bien sûr. Donc là, en l'occurrence, la mondialisation permet de belles opportunités dans cette affaire.
Et pour preuve de l'efficacité de ce système, selon l'ONU, les trafiquants de drogue, vos futurs collègues, si vous travaillez bien, auraient blanchi en 2009 environ 1600 milliards de dollars, soit, tenez-vous bien, près de 3% du PIB mondial. Pas mal du tout.
Pour être tout à fait complet dans notre étude de ce secteur, il faut prendre en compte les risques susceptibles de peser sur votre réussite à moyen terme. Et le principal facteur qui pourrait bousculer cette activité et qui est redouté par beaucoup de ses acteurs, c'est l'éventualité d'une légalisation qui viendrait à coup sûr compromettre cet audacieux business model.
Les risques sont bien connus, appauvrir l'offre et donc diminuer la concurrence avec le risque d'apparition de géants trustant toutes les parts de marché, voire carrément l'instauration de monopoles d'État, comme on peut le voir en Suède avec l'alcool. Ce qui aura pour effet évidemment de diminuer la productivité et l'inventivité des acteurs. Bref, la légalisation du secteur serait le meilleur moyen de casser sa dynamique en éliminant toute prise de risque qui, comme chacun le sait, est l'ingrédient essentiel de tout business.
Alors, pour finir sur une note positive, une phrase à méditer avant de vous laisser, Une phrase d'un génie du genre, Al Capone, qui pourtant avait su rester modeste et disait « Public service is my motto ».
Être au service du consommateur. Une très bonne conclusion pour cette émission.
Merci Maya. Et la prochaine fois,
on se retrouve avec un nouveau dossier.
Oui, c'est un marché en plein boom avec d'énormes perspectives de croissance, le service de vente d'organes.
Ah oui, parce qu'on aura toujours besoin d'un cœur, ou d'un foie, ou des deux à la fois.
Ou d'un poumon.
Ah ben.
Comment spéculer sur la dette?
La privatisation des prisons. Un marché en plein boom.
Comment gagner avec les nouvelles pathologies?
Combien?
Combien ça gagne?
Ça gagne.
C'était comme un bruit qui court. Laissez-nous vos messages, commentaires et vos remixes sur la page web de l'émission. Mais aussi vos Radio It Yourself, remixez-le vous-même sur le site franceinter.fr. Et sur les réseaux sociaux, Maudièse, hashtag comme un bruit.
Offrez à vos amis une petite baladodiffusion sur les chemins creux de Trémargat ou dans les poubelles de la société de consommation ou sur les sentiers d'école entreprise ou sinon dans l'état de Guerrero au Mexique où l'on recherche toujours les étudiants disparus de l'école d'Ayotzinapa.
Et si vous voulez d'autres numéros de combien ça gagne sur d'autres business opportunities, à vous de vous exprimer, c'est le marché qui décidera. Juste après le flash, par contre, vous retrouverez Colin et Mauduit si l'Amérique m'était comptée.